Histoire de vin, un podcast pour découvrir et explorer le monde du vin avec Étienne Pommier.
Si vous allez vous promener dans un vignoble en ce mois de septembre, vous apercevrez peut-être les vendangeurs en train de cueillir le raisin. Penchés entre les rangs de vignes, ils accomplissent le rituel millénaire en coupant de leur sécateur les précieuses grappes des sarments. Hors de toutes les plantes fruitières, cette liane cultivée par l'homme depuis plus de 8000 ans est certainement l'une des plus fascinantes. Si vous faites fermenter des oranges, vous aurez du vin au goût d'orange. Si vous prenez des cerises, vous aurez du vin de cerise. Mais si vous faites fermenter du raisin, qui porte en lui l'essence de tous les parfums du monde, vous obtiendrez du vin qui a le goût de tout, sauf du raisin. Comme le disait l'écrivaine Colette, « Seul dans le règne végétal, la vigne nous rend intelligible ce qu'est la véritable saveur de la terre. » Mais ce qui nous fascine, c'est aussi son exceptionnelle longévité. L'aspect torturé, noueux d'un vieux cep a une aura presque mystique et les vieilles vignes nous renvoient une image d'histoire, de tradition, de romantisme en même temps que la promesse d'un hectare. Le plus vieux cep de vigne du monde se trouve en Slovénie dans la ville de Maribor. Son existence est attestée depuis 1570 et elle produit encore chaque année quelques litres de vin. En France, la vigne d'Henri Marionnet à Courcheverny date de 1850. Mais qu'est-ce qui fait la qualité de ces vignobles ancestraux? À partir de quand une vigne devient-elle vieille? Et est-il absolument nécessaire que les cèpes soient âgés pour produire de grands vins? De la France à l'Australie, en passant par l'Italie ou l'Afrique du Sud, je vous parle aujourd'hui des vieilles vignes entre viticulture, histoire, dégustation et contrebande. Les principales raisons qui font la qualité des vieilles vignes sont connues. Pour peu qu'elles n'aient pas été fertilisées à l'excès, elles possèdent un système racinaire très développé, plongeant à plusieurs mètres dans le sol, où elles peuvent aller puiser l'eau et les nutriments nécessaires à leurs besoins. Cet enracinement profond les rend également plus résilientes aux aléas climatiques tels que la sécheresse. Ensuite, on suppose qu'elles ont développé au fil du temps des résistances naturelles contre certaines maladies et autres parasites, puisqu'elles ont réussi à survivre et c'est la raison pour laquelle elles sont très recherchées pour la propagation. Enfin, les vieilles vignes qui ont perdu de leur vigueur concentrent leur énergie vitale sur de plus faibles rendements, donnant par là même des baies plus concentrées en composés phénoliques qui produiront un vin au caractère plus affirmé. En outre, elles sont souvent sujettes au mirandage, un défaut de maturation qui produit des baies plus petites, ce qui augmente la proportion de pellicule ou de peau du raisin par rapport à la pulpe et qui donne des jus très riches. Le Chambertin très vieille vigne de Joseph Rotti, issu de pieds datant de 1881, ou le Côte-Rohanaise l'émirant du domaine Sérolles, provenant d'une parcelle de 75 ans, en sont de parfaits exemples. Cette concentration et cette complexité associées au faible rendement expliquent pourquoi les vins issus de vieilles vignes sont généralement plus chers que ceux issus de parcelles plus jeunes. Mais qu'est-ce qu'une vieille vigne? À partir de quel âge une vigne est-elle considérée comme vieille? En France, la mention « vieille vigne » est une mention dite libre, c'est-à-dire qu'elle n'est pas encadrée par un règlement, mais reste à l'appréciation du producteur. Et c'est cette législation qui fait débat, car elle entraîne la mise sur le marché de cuvées étiquetées « vieille vigne » issues de parcelles qui peuvent avoir 30 ou 40 ans, comme être centenaires. Contrairement à la France, d'autres pays ont choisi de réguler l'usage de cette mention, comme l'Afrique du Sud avec son « Old Vine Project ». Mais le pays qui a établi la classification la plus sérieuse et la plus exhaustive est celui qui abrite la plupart des plus vieux vignobles du monde. On y retrouve notamment les vignes les plus âgées de cépages natifs de l'Hexagone, tels que la Syrah, le Grenache ou le Sémillon. Et ce pays, c'est l'Australie. Depuis 2009, l'Australie a mis en place dans la région de Barossa une charte des vieilles vignes, Old Vine Charter en version originale, qui a recensé et classifié les plus vieilles parcelles de la région en 4 catégories. 35 ans, c'est l'âge minimum pour pouvoir utiliser la mention vieille vigne en Australie. Mais à vrai dire, il existe une telle concentration de vieilles vignes dans le pays qu'il est très rare de trouver cette mention sur une étiquette pour une parcelle de moins de 50 ou 60 ans. À partir de 70 ans, on parle des survivor vines, littéralement des vignes survivantes qui ont su parfaitement s'adapter et résister aux épreuves du temps. À partir de 100 ans, elles peuvent être qualifiées de centenaires ou centenarian vines. Et au-delà de 125 ans, on parle d'ancestor vines, ou vignes ancestrales, pour des parcelles qui datent bien souvent de l'arrivée des premiers colons européens au milieu du 19e siècle. Parmi ses ancêtres, la plus vieille vigne de Syrah du monde, le Freedom Vineyard du domaine Langmill, planté en 1843, les grenages de 1850 de la famille Cirillo, ou encore le Old Garden Vineyard, planté en Mourvèdre par le colon allemand Friedrich Koch en 1853. Cette classification est une marque de reconnaissance autant qu'une preuve de la résilience, non seulement des ceps de vigne, mais aussi des générations qui les ont plantées et préservées pendant toutes ces années. Alors qu'aucun vignoble n'est planté de nos jours sans des analyses de sol poussées, il est fascinant de constater que c'est l'observation empirique des conditions et le bon sens paysan qui ont guidé le choix des sites pour ces vignobles. La proportion de très vieilles vignes dans la province d'Adélaïde, et plus particulièrement dans la Barossa Valley, a de quoi nous étonner en tant qu'Européens. Comment se fait-il que la vigne, plante originaire du bassin méditerranéen et cultivée en Europe depuis des millénaires, ne compte pas ses plus vieux ceps parmi les vignobles de France, d'Italie ou d'Allemagne? La réponse tient en un seul mot dont je vous ai déjà parlé dans le podcast sur Châteauneuf-du-Pape, le phylloxéra. Cet insecte ravageur de la vigne, vivant dans le sol et arrivé des États-Unis vers la fin du 19e siècle sur des pieds de vignes infectées, a décimé en quelques décennies les vignobles européens. En piquant les racines pour se nourrir, il affaiblit peu à peu la plante qui s'atrophie et meurt en quelques années. Le phylloxéra, Dactylosphera vitifoliae de son petit nom, est repéré pour la première fois dans le Gard en 1863 où il commence à se répandre. En 1869, on le signale dans le Beaujolais et à Bordeaux où il détruit les deux tiers du vignoble, soit plus de 100 000 hectares. L'Autriche annonce ses premiers cas en 1872 et l'Allemagne en 1874. En 1875, il est remonté au nord jusqu'en Bourgogne et dans le Val-de-Loire. En 1877, il atteint l'Espagne et l'Italie est infectée dès 1879. Dans la décennie 80, il poursuit sa progression vers l'Est, Hongrie, Serbie, Bulgarie, Roumanie et jusqu'en Crimée où il est observé vers 1890. Il continue également de remonter vers le nord où il est signalé au Ménil-sur-Auger au cœur de la Champagne en 1892. Mais dans le même temps, la croissance des échanges internationaux et la faiblesse des mesures sanitaires de quarantaine lui permettent de se répandre sur d'autres continents. On le signale en Algérie dès 1885, au Pérou en 1888 et jusqu'en Extrême-Orient où il est repéré en Mandchourie, dans l'actuelle Chine, en 1914. On estime que près de 80% du vignoble européen a été détruit par le phylloxéra avant qu'une solution ne soit mise en place. Cette solution, c'est le greffage du pied de vigne européen sur une souche de vigne américaine appelée porte-greffe, immunisée contre le parasite. Or, cette solution avait été trouvée dès 1868 par l'ampélographe Victor Pulia. Un ampélographe, c'est un botaniste spécialiste de la vigne. Mais elle va longtemps rester interdite par les autorités, et ce n'est qu'en 1878 que les premiers greffages sont autorisés, uniquement dans les zones les plus affectées du sud de la France. Il faudra attendre encore 10 ans pour qu'une région comme la Bourgogne autorise le greffage. La crainte des autorités était que l'emploi des souches américaines n'altère les qualités gustatives du cépage européen, et encore aujourd'hui, de nombreux observateurs considèrent que le porte-greffe semble filtrer ou atténuer une partie des nuances produites par le cépage originel sur les meilleurs terroirs. Les vignes non greffées sur une souche américaine sont appelées francs de pied et elles sont rarissimes car le phylloxéra est toujours présent dans nos sols et attaque presque systématiquement toutes les nouvelles plantations. Le producteur de Mont-Louis, François Chiden, possède une parcelle de chenin blanc nommée Les Bournées plantée dans les années 90 et dont quelques arts ont été plantés de vignes non greffées à titre expérimental. De cette parcelle, il produit donc deux vins, le Mont-Louis-Les Bournées et une cuvée confidentielle, Les Bournées Francs de Pied. Et la comparaison des deux vins est très intéressante. La cuvée principale possède une densité remarquable, avec un bouquet très intense sur des notes de fruits du verger, presque tropicaux dans les années chaudes, et une opulence quasi charnelle, quoique bien équilibrée par une fine trame acide. La cuvée Francs de Pied, quant à elle, est à la fois plus délicate et un peu moins riche, mais dotée d'une grande finesse aromatique sur le coin et la cire d'abeille avec une minéralité saline un peu plus marquée. Si elle ne possède pas tout à fait le volume de sa jumelle, sa pureté aromatique et sa très grande persistance en font une bouteille d'exception. Cette comparaison, effectuée sur le millésime 2015, va donc dans le sens de la thèse d'un porte-greffe qui atténuerait un peu la complexité aromatique de la vigne originelle. Mais si quelques expériences de replantation comme celle-ci ont eu lieu, les vieilles vignes francs de pied qui ont résisté aux pucerons sont rarissimes. En Champagne, la maison Bollinger possède deux parcelles de vieilles vignes françaises qui ont miraculeusement échappé au phylloxéra et produisent un vin d'une complexité et d'une profondeur exceptionnelles. Ailleurs en Europe, les sols basaltiques de l'Etna ont conservé quelques-unes de ces vignes préphylloxériques, comme la Vigna Barbagalli du domaine Pietra Dolce, dont certains cèpes ont plus de 120 ans et produisent un vin aérien aux nuances de rose et d'orange sanguine et à la structure extrêmement fine. Mais c'est bien en Australie qu'on trouve le plus de ces très vieilles vignes, car les sols un peu sablonneux de la Barossa Valley semblent peu propices au phylloxéra et que les producteurs de la région ont mis en place très tôt des mesures de quarantaine extrêmement strictes qui leur ont permis de protéger leur vignoble du ravageur jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, si vous avez un jour la chance de visiter le vignoble Hill of Grace de la famille Henschke, planté en 1860, on vous demandera de désinfecter vos chaussures avant de pouvoir y pénétrer. Le patrimoine génétique de ces très vieilles vignes est un véritable trésor, jalousement gardé par les vignerons, et il est très rare que les producteurs acceptent que l'on y prélève des bois. Pour bien comprendre l'histoire et surtout la valeur de ces vieilles vignes, il faut que je vous raconte comment elles ont voyagé à travers le monde depuis le 19e siècle. Une histoire de pionniers, de botanistes, de contrebande et parfois même de vol. Depuis le néolithique, l'implantation de la vigne a suivi les mouvements démographiques et les migrations. Des montagnes du Caucase où elle a commencé à être cultivée, elle s'est développée dans tout le bassin méditerranéen durant l'Antiquité. Les Romains ont largement contribué à cette expansion et les conquérants emmenaient systématiquement avec eux des pieds de vigne dans leur campagne pour assurer l'approvisionnement loin de la capitale. À la Renaissance, les missionnaires espagnols et portugais emmenaient avec eux des sarments à destination du Nouveau Monde et les premières vignes sud-africaines furent apportées par des protestants français qui fuyaient les guerres de religion et la révocation de l'édit de Nantes en 1685. En Australie, c'est en 1833 que les premières boutures arrivent sur le continent dans les malles du Britannique James Busby. Après avoir étudié la viticulture en France, ce fils d'ingénieur suit sa famille en Australie en 1924 quand son père est appelé sur un projet de construction. Amenant quelques sarments dans ses bagages, il commence à cultiver un vignoble. En 1831, il revient en Europe et parcourt les régions de France et d'Espagne pour ramener deux ans plus tard plus de 680 coupes de différents cépages qui serviront aux plantations d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Au cours du 19e siècle, il sera imité par les nombreux colons européens originaires d'Allemagne ou d'Italie qui amèneront également leurs plants avec eux. Quelques vignobles plantés par ces colons échapperont au phylloxéra et constituent aujourd'hui un formidable patrimoine. La concentration et la finesse exceptionnelle produite par ces très vieilles vignes non greffées, tant au niveau des tanins que des arômes, produit quelques-uns des plus grands vins de la planète, comme la cuvée Hill of Grace de la famille Henschke. Mais aussi, de nombreuses bouteilles plus raisonnables en termes de prix, dotées d'un profil généreux, velouté et complexe, qui a fait la réputation de Barossa. Dans les années 70, le développement de la viticulture au-delà des frontières européennes va pousser des jeunes gens téméraires et peu regardants de la législation à prélever des boutures dans des vignobles français réputés. Au milieu de la décennie, un voyageur néo-zélandais rentrant au pays est arrêté par la douane à l'aéroport d'Auckland. La rumeur dit qu'il s'agirait d'un joueur de rugby. L'officier des douanes Malcolm Abel inspecte ses affaires et découvre caché dans une botte en caoutchouc un morceau de vigne. Les lois sur la quarantaine étant très strictes en Nouvelle-Zélande afin de protéger l'écosystème unique de ce pays insulaire, l'officier saisit la marchandise et interroge le contrebandier amateur, qui lui explique que le sarment provient du grand cru de Bourgogne-Latache, monopole du célèbre domaine de la Romanée-Conti. Et là, les yeux de Malcolm Abel s'allument. Car il n'était pas seulement officier des douanes néo-zélandaises, mais aussi vigneron amateur à 16 heures. Comprenant l'importance du bout de bois qu'il a entre les mains, il entreprend les démarches pour légaliser son importation et le soumettre à la quarantaine durant plusieurs années. À la suite de quoi, il récupère le sarment pour le planter dans son vignoble. Aujourd'hui, Cette variété de pinot noir dit Clone Abel est plantée à travers toute la Nouvelle-Zélande et notamment au domaine Atarangi, l'un des plus réputés du pays. De par sa tradition de meilleur pinot noir du monde, le domaine de la Romanée Conti est bien malgré lui au cœur de nombreuses histoires ou légendes de vols de sarments pour les replanter sous d'autres latitudes. En Californie, le vigneron Gary Pisoni de Santa Lucia est au centre d'une rumeur pour avoir laissé entendre à plusieurs reprises que ces vignes de pinot noir seraient issues de boutures prélevées illégalement dans les parcelles du célèbre domaine bourguignon. L'intéressé n'a jamais reconnu les faits, et on comprend pourquoi. Il aurait été passible de poursuites en France et aux États-Unis pour vol et infraction aux lois sanitaires et au régime de la quarantaine. Un autre producteur californien, Gary Eberle, est quant à lui soupçonné d'avoir prélevé des coupes dans le vignoble de l'ermitage de la famille Chapoutier en 1977. Ces histoires démontrent la valeur du patrimoine génétique de ces vieilles vignes, considérées comme capables de résister aux virus et de produire de grands vins. Mais le pédigré de la plante ne fait pas tout, loin de là. Et c'est l'adéquation entre un terroir et la vigne qu'on y cultive qui est source de qualité. Comme l'écrivait le journaliste américain Eric Asimov dans un article paru dans le New York Times en 2008, penser qu'on va faire un grand cru juste parce qu'on a un plan de la Romanée Conti, c'est comme prendre une Fender Stratocaster et espérer qu'on va devenir Jimi Hendrix. C'est pas gagné. La qualité réelle des vieilles vignes, pour peu qu'elles ne soient pas infectées par des virus ou des maladies, a construit une sorte de mythologie qui veut qu'un grand vin provienne forcément d'un vignoble âgé. Mais c'est faux. Si une vieille vigne peut effectivement donner un vin de grande qualité, ça n'est pas non plus une condition absolument nécessaire, et il existe de nombreux contre-exemples qui tiennent notamment au cycle de vie de la plante. Dans les trois premières années de sa vie, le jeune plant de vigne va commencer à développer son système racinaire, à grandir, et c'est à partir de la troisième année qu'il va produire du raisin. Entre 3 et 7 ans, la vigne est encore chétive, peu vigoureuse et incapable de se constituer des réserves de carbohydrates étant donné que son bois est encore peu développé. Dès lors, pour assurer la survie de l'espèce, elle concentre son énergie sur les quelques grappes qu'elle porte et ce phénomène a pour conséquence contre-intuitive que les très jeunes vignes sont capables de produire de très grands vins. Quand Marcel Guigal commence à produire sa Côte Rôtie La Turque en 1985, la vigne a tout juste 3 ans d'âge et donne pourtant naissance à une bouteille exceptionnelle. En Champagne, la parcelle de la Haute-Lamblée plantée en Chardonnay au début des années 2000 par Cédric Bouchard produit, dès le millésime 2005, un blanc de blanc cristallin d'une grande pureté. Et en Italie, l'un des plus grands vins du XXe siècle, le Barolo Monfortino Riserva 1978 de Giacomo Conterno, et le fruit d'une vigne plantée seulement 4 ans auparavant, en 1974. Quand la vigne atteint 7-8 ans et que sa survie n'est plus un enjeu aussi prioritaire, la plante gagne en vigueur pour développer ses racines et son bois afin de pouvoir se constituer des réserves. Le docteur Marcus Keller, professeur de viticulture à l'Université de Washington et auteur d'un livre de référence en la matière, observe que de 7 à 20-25 ans, la qualité a tendance à baisser légèrement le temps que la plante s'enracine profondément. Et après 25 ans, elle trouve son équilibre et sa vigueur se modère pour produire de nouveau au maximum de son potentiel qualitatif. Or, ce potentiel dépend de la qualité du matériel végétal au-delà de l'âge de la vigne, comme la sélection du porte-greffe ou du clone. Attention, on ne parle pas ici de manipulation génétique ou de science-fiction. Un clone désigne une sélection d'un cep parmi les autres du même cépage pour ses caractéristiques propres. Par exemple, si un de vos ceps de vigne se montre plus résistant que les autres aux maladies, c'est sur lui que vous allez prélever une bouture pour la plantation de futures parcelles. Ce faisant, vous aurez sélectionné un clone et il peut exister des dizaines de clones du même cépage. Donc, le choix du clone et du porte-greffe sont essentiels pour déterminer le potentiel qualitatif d'une vigne. Et il faut bien évidemment prendre en compte également la qualité du terroir sur laquelle elle est plantée. Par conséquent, une vieille vigne n'est pas forcément une vigne de grande qualité. L'une des plus vieilles de France se trouve dans le village de Saragachi, en Gascogne, au cœur de l'appellation Saint-Mont. Ce cep d'au moins 150 ans n'a jamais été attaqué par le phylloxéra et continue de produire du raisin aujourd'hui. Mais le vigneron André Dubosc le reconnaît lui-même. « Ne faut pas exagérer. » Le vin qu'on tire d'ici a peu de valeur œnologique. Si le domaine de la Romanée-Conti produit de si grands vins, ça n'est pas seulement grâce à ses grands terroirs et son savoir-faire unique, mais aussi parce que les pieds de Romanée-Conti arrachés en 1945 et dont l'origine remontait à 300 ans, ont servi de greffon pour l'ensemble du domaine, comme l'expliquait dans une interview au Figaro en 2017, Aubert de Villene, co-gérant emblématique du domaine pendant un demi-siècle. La cause profonde de la qualité d'un vin tient dans la valeur de son terroir, dans la symbiose de la plante avec ce terroir pour en exprimer tout le caractère et dans le talent du vigneron pour traduire dans la bouteille le potentiel acquis à la vigne sans le dénaturer. Or, c'est bien cet aspect humain qui est pour moi le plus important. C'est la main de l'homme qui a identifié les meilleurs terroirs et façonné les paysages pour y planter la vigne. Les vieilles vignes ne doivent leur survie qu'aux soins attentifs et méticuleux des générations de vignerons qui les ont préservées. En cela, elles sont le témoin d'une tradition autant que l'expression d'un lieu, et la dégustation de ces vins, quelles que soient leurs qualités intrinsèques, un témoignage du travail et de l'engagement des générations précédentes, un morceau de notre patrimoine, une part de notre histoire.